When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Salut, c'est Mimi Hegel. Dans la vie, je suis créatrice de contenu indépendante sur Internet. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur Instagram, sur Twitter et sur Patreon sous le même at, à savoir MYMYHGL. Les podcasts disponibles ici sont principalement des replays de mes live Twitch. C'est pour ça que j'interagis avec le chat et que j'évoquerai parfois des éléments visuels que vous ne voyez pas. Merci de soutenir mon travail et bonne écoute.
Oh my god, Internet, ça va ou quoi?
C'est quoi le problème? Je suis un peu zinzou? Ceux qui savent, savent. J'ai besoin de contexte.
J'espère que vous êtes ready pour la dingue.
Pas la peine d'être désagréable.
Et y a pas de naninana, non. N'hésitez pas à vous abonner.
Ok. L'écriture a une place dans nos vies et du coup, on va en parler, répondre aux questions que vous nous avez posées sur le sujet. Voilà, là, on est en talk, tranquille. Du coup, Kalindi, comment t'es venue à l'écriture? C'est quoi ton rapport à tout ça? Qu'est-ce qui fait que t'es là, t'écris et tu fais même des trucs pour apprendre aux gens à écrire?
Je prends 3 secondes pour réfléchir. Vas-y. J'ai toujours écrit, d'aussi loin que je me rappelle. Alors, pour vous expliquer un peu, je suis une enfant unique. Ce qui veut dire que j'ai eu beaucoup de temps pour me faire chier dans mon existence.
Une enfant unique née avant les smartphones. On a vraiment le temps de se faire chier. Il n'y avait pas
TikTok. J'ai eu le temps de me
faire
bien chier. Et en fait, j'étais une enfant très taciturne, d'après ma mère. J'étais vraiment le genre d'enfant...
Un peu surprenant quand on voit quand même une personne expansive que
oui,
tu es.
Oui, mais grâce, et j'y reviendrai après, notamment grâce à certaines formes de créativité. Et en fait, petite, ma mère, elle m'emmenait au parc avec pour envie de me larguer dans le parc et de pouvoir bouquiner tranquille. Et en fait, moi, je faisais un tour de toboggan et j'étais là. Est-ce qu'on peut y aller maintenant? J'étais vraiment l'enfant la plus taciturne. J'ai toujours été une vieille dame.
Je n'aime pas le fun.
J'aimerais
rentrer tricoter, mère, s'il vous plaît. C'est bientôt c'est l'heure des amours.
Voilà, ton chat est en train d'être zinzin. Oui. Donc, j'ai rapidement eu besoin de trouver des manières d'exprimer ma créativité qui étaient les miennes. Et en fait, ma mère m'a appris à lire très jeune, j'avais 4 ans. Donc, j'ai su lire quand je suis arrivée en CP. Et pour ma mère, c'était important de m'apprendre ça parce qu'elle se voyait que je me faisais copieusement chier. Elle s'est dit, ça se trouve, c'est via l'écriture que ma fille va un petit peu s'ouvrir au monde. Plot twist, ça a marché. J'ai appris à lire très jeune. J'ai aimé lire énormément. Je pense fondamentalement que pour écrire, il faut lire un petit peu. Et je pense qu'il ne peut pas y avoir vraiment de velléité d'écriture s'il n'y a pas d'amour vraiment pour la lecture, en tout cas, parce que c'est fondamentalement relié.
Oui, qu'il y a minima un livre ou un truc qui t'ait donné envie de dire j'ai envie moi aussi d'écrire un truc, quoi.
Exactement. Donc en tout cas, j'ai toujours beaucoup lu. Il y a eu une période à vide parce que les réseaux sociaux... Parce qu'un jour, j'ai découvert Instagram et j'étais là, attends, what the fuck?
C'est la faute incroyable. À Mademoiselle. Rappelons que Kalindi, qui est maintenant quand même Instagrammeuse avec beaucoup d'abonnés, quand t'es arrivée chez Mademoiselle, ça fait quoi, 5 ans maintenant?
6 ans.
Oui, t'es partie après 5 ans.
Ouais.
Tu n'avais pas Instagram ni aucun réseau social, je crois, d'aucune sorte.
J'avais eu Facebook une fois 6 mois, ouais.
Et tu as compris assez vite que sur Instagram, tu avais, ma foi, ton petit trou à creuser.
Bah, j'ai
compris. Il y a moyen d'y passer du temps, par contre.
Ouais, qu'il y a moyen d'y passer du temps, mais que c'est trop bien d'être en relation avec des gens tout le temps, de pouvoir tchatcher avec des gens qu'on connaît pas et tout. J'avais jamais été sur un forum, enfin, je connaissais pas tout ça, quoi.
Donc, Internet,
là, wow.
Finalement.
J'ai eu Internet, rappelons-le, à vraiment 17 ans, ce qui est un peu tard par rapport aux gens que je fréquente. Et donc, en fait, aussitôt que j'ai su lire et écrire, j'ai commencé à écrire. Et c'est un peu ce qui m'a fait survivre à mes études. C'est-à-dire que j'ai détesté l'école. Mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut détester l'école autant que j'ai détesté l'école. Il y en a sans doute qui ont encore plus détesté que moi. Mais pour moi, ça a été un pincem. J'étais une enfant très timide. J'étais une adolescente très timide, empêtrée dans des tonnes de complexes, aussi bien physiques qu'intellectuels. Je ne me sentais jamais assez bien. Je ne me sentais jamais à ma place. Je rappelle que j'ai grandi à Levallois, dans une école de blancs, avec des blancs riches, que moi, j'étais pas blanche, que j'étais pas blanche, mais à la fois, j'étais pas d'origine nord-africaine, ce qui était les origines des autres personnes racisées de mon école, que du coup, j'avais aucun...
T'étais à part... T'étais trop racisée pour les blancs, pas racisé de la bonne pour façon pour d'autres gens et tout.
Donc c'était un peu compliqué de faire mon trou, c'était un peu compliqué d'exister à l'école. Et en fait, quand je suis rentrée au lycée et qu'on a commencé à me faire faire des choses qui m'intéressaient plus, que je suis rentrée en L, que j'ai pu lire et écrire
team
des choses qui m'intéressaient
team
de fou,
L.
Team L de fou, j'ai eu un prof de littérature qui m'a passionnée, qui s'appelle Monsieur Rubens, que j'embrasse s'il m'écoute.
C'est un
alors,
super nom.
C'est
plus,
incroyable pour être un prof de littérature.
Monsieur Rubens, c'est beau.
On comprend que c'est directement lié aux arts. Enfin, vraiment, j'ai toujours adoré ce gars qui pourtant était vraiment peu aimable, mais j'étais sa chouchoute et j'avais jamais été la chouchoute de qui que ce soit. Et lui, il a lu mes...
Ça t'a débloqué un truc de oui. Oh,
well,
je suis l'enfant préféré.
Je suis validée par un homme de 70 ans. Super. Et...
alors, au-delà des hommes de 70 ans, si je puis me permettre, ayant été ta chef, je sais que des fois, t'aimais bien avoir juste une petite gommette, tu vois, qui dit Kalindi, ouais, tu as bien travaillé.
Exactement.
Et je comprends. J'ai aussi besoin d'être une bonne élève et d'avoir une gommette de mes professeurs d'adultes, c'est-à-dire des gens que je considère comme des vrais adultes qui, des fois, me patte-patte et me disent « C'est bien, je suis là. » Ah,
bah ouais,
tant
d'être...
mieux.
Bah d'avoir un sucre quoi, parce que
un peu, ouais.
Le truc c'est que moi j'ai jamais été une bonne élève, j'ai eu une scolarité très médiocre et c'est vraiment en arrivant au lycée et après dans les études supérieures que j'ai su m'affirmer. Et donc au lycée j'ai eu Monsieur Rubens qui était un gars super taciturne et un peu désagréable en vrai, mais qui nous emmenait faire les meilleurs bails, genre vraiment, et nous avait emmené voir Tout sur ma mère de Almodovar au cinéma et après on faisait des dissertations dessus et on racontait
ah
ce
ouais,
que ça
cool
voulait
prof.
Dire.
Enfin,
c'était vraiment cool,
ouais,
tu
ouais.
vois.
Pas comme mon prof qui nous a obligés à apprendre par cœur l'incipit des Confessions de Rousseau.
Oh là là,
ce qui n'est pas
faire.
Passionnant
mais ça, c'est un
pour
prof
une
philo,
adolescente. Non,
non
prof de français
ah,
et ou de ouais non de français et je les connais toujours et je hais toujours Rousseau. Voilà, ça ne m'a pas donné envie de découvrir l'œuvre de Rousseau plus
mais
que
Rousseau,
ça.
Rousseau pire mec en même temps, mais bon.
Pire gars voilà. De fou,
pire type. Et Monsieur Rubens me rappelle qu'une fois, il nous a fait écrire une écriture d'invention sur je sais plus quoi, j'ai oublié. Il y avait un prix à la clé.
Tu racontes bien.
Il y avait un prix à la clé. Et
oh.
J'ai gagné cette écriture d'invention.
C'était
et
quoi
donc,
le prix?
C'était d'aller voir une troupe qui s'appelait les Gérard Gérard, qui jouait Roméo et Juliette de Shakespeare, je sais plus dans quel amphithéâtre de Levallois-Perret.
Incroyable.
Et en fait, il fallait aller, on avait le droit d'aller les voir. Et donc, on était quatre
trop
à gagner
bien,
ça.
Ouais.
J'étais parmi les quatre. J'ai été voir les Gérard Gérard. Et après, on devait faire une critique de théâtre.
Le prix, c'est
Gérard...
du travail. T'as vu que le prix, c'est un devoir en plus.
Bah,
c'est vraiment un move
quoi.
De prof, tu vois, qui est là. Le prix, c'est l'accès à la culture. Mais aussi, vous avez un commentaire de texte à faire à la fin. Enfin,
c'est
tranquille,
clair.
Tu vois.
L'enfer. Et donc, moi, j'étais là, ok, j'ai adoré les Gérard Gérard. À un moment donné, il y a un acteur, il m'a regardé dans les yeux. Je me suis dit, je vais me marier après-demain avec cet acteur qui a genre 15 ans plus que moi. Bon, bref.
Ouais, et on est, il y a un pattern, peut-être.
Il y a un processus à
un
défaire.
Un homme plus
ouais.
vieux qui te valide. Eh, hey, on
surtout
est des meufs.
Tu m'avais
hein.
pas vraiment regardé. Enfin, j'étais vraiment
bien
juste
sûr
une adolescente
que
en train de se projeter. Tu crois?
Et puis si, non, j'allais dire bien sûr que si, après j'étais là, non. Car j'espère que non. Car si c'est vraiment un adulte qui t'a regardé de façon concupiscente alors que tu étais une adolescente, rappelons que c'est pas bien. C'est un
mal.
Grand nom. Donc évidemment, il ne t'a pas regardé, il faisait son travail de comédien, il regardait au fur et à mesure dans le public et il l'envoyait son intensité
d'acteur.
Moi,
j'étais une ado de 15 ans, qu'est-ce que je te dise.
Et bien sûr, toi, t'étais là.
Je vivais la romance,
c'est
via
lui,
le gars qui
c'est
jouait
moi.
Roméo.
Mais en plus...
Donc, je croyais que j'étais Juliette, enfin vraiment une Juliette mauricienne et tout, j'étais là, waouh, incroyable ce qui est en train de m'arriver. Et donc, on a écrit la critique des Gérard Gérard, j'ai gagné la meilleure critique des
évidemment.
Gérard.
Évidemment.
J'ai été publié. Enfin, il a print mon papier. Il l'a fait passer à toute sa classe et toutes ses autres classes. Et
oh
waouh. Waouh. Et voilà. Et je me suis dit waouh. J'adore écrire. J'adore critiquer. Ça deviendra plus tard mon métier. Plot twist.
Et oui.
Écrire et critiquer en fait.
T'as voilà, vraiment un podcast vraiment. Qui s'appelle Le seul avis qui compte. Car le seul avis qui compte, c'est celui de Kalindi. Donc on peut dire que ouais, t'es dans la critique.
Si vous voulez que je vous dise. Et après, alors je me rappelle, vous souvenez-vous, vous qui êtes des enfants peut-être des années 90, des gros ordinateurs Apple qui étaient roses,
ah,
verts.
Ah, les Macintosh de plein de couleurs, la coolitude.
La
moi j'attends incarnée. Qu'on revienne à la techno transparente. J'avais la Game Boy transparente, mon tonton il avait le Mac transparent, le Macintosh transparent, c'était la fin du monde de la coolitude.
Ouais,
et j'attends maintenant que les années 90-2000 reviennent à la mode, je suis là, ok, quand est-ce qu'on a de nouveau des iPhones transparents colorés SVP?
C'est clair.
Donc.
Bah donc, alors quand j'ai eu 16 ans, j'ai eu ce Macintosh transparent fuchsia. Mais en fait, mes parents refusaient d'avoir.
Ça, c'est grandir
Internet.
À Levallois à la MIF.
Exactement. Non, c'était un peu. On a eu un truc un peu tombé du camion. Bref.
Ah bon?
Il y a prescription,
ça va.
Ça fait vraiment 20 ans, peut-être.
Ouais,
non, peut-être
bon.
moins 18 ans. Bon, anyway. En tout cas, en grandissant, j'ai eu ce Macintosh transparent fuchsia. Mes parents refusant d'avoir Internet, nous n'avions qu'un truc, c'était le traitement de texte.
Et oui.
Et donc, le seul truc que je pouvais faire sur cet ordinateur, c'était jouer au solitaire.
Solitaire.
Ou écrire des trucs sur le traitement de texte. Et donc là, j'ai commencé à écrire des textes. Et je me souviens, j'avais écrit l'histoire de deux sœurs. C'est un truc un peu fantastique où il fallait plonger dans une piscine pour avoir une clé pour ouvrir un truc dans un piano. Bon, bref,
déjà aquatique, un peu ton côté sirène qui remonte comme ça.
Et j'étais là, ouah, chambé et tout, je veux trop être écrivaine. Et en fait, après être écrivaine, j'ai voulu être comédienne. Bon, bref, j'ai fait un petit peu des trucs. Et après, quand je suis... je veux dire, j'ai fait du théâtre à l'école, quoi, vraiment basique. Et ensuite, après mes études qui ont été trop longues et qui n'avaient rien à voir avec mes velléités intrinsèques, donc j'ai fait des études de traduction dans une école qui s'appelle l'ESJ. Et après l'ESJ, donc ma mère voulait que je fasse du théâtre. Ma mère est une ancienne comédienne.
Ce qui est déjà grave cool par rapport à plein de gens qui ont des velléités artistiques et où les parents disent plutôt tu vas faire un vrai métier et devenir ingénieur ou médecin, ma fille. Toi, au moins, t'avais une mère qui disait je voudrais que tu sois comédienne.
Oh, c'était la meilleure des femmes, scène, vraiment. Cas, après, il y avait mon père qui disait tu es médecin ou avocat, sinon va-t'en chez moi. Bon.
Oui, donc tu avais les deux à la maison. Alors oui, précisons, parce que tu viens de dire c'était la meilleure des femmes. Ta mère n'est pas décédée. Elle est toujours parmi nous. Elle a fait le. On la voit parfois sur l'Instagram de Kalindi quand on a de la chance. Elle a fait le générique de Nymphe. Enfin, on est bien. Elle est là, on l'embrasse.
Mon père, en revanche, est décédé, ce qui explique que j'ai repris une carrière artistique.
Kalindi a écrit un roman, le saviez-vous? Peut-être que ça en parle un petit peu.
Peut-être. Et donc, ouais, ma mère m'a dit, écoute, fais du théâtre. Moi, je rêve que t'en fasses. Moi, j'étais là, moi aussi. Puis j'ai eu peur. Et j'ai eu peur de pas pouvoir manger à la fin du mois. J'ai eu peur de pas avoir ma place. Il faut quand même en parler, tu vois.
Et du coup, tu t'es dit journaliste.
Non, j'y viens. Mais en vrai, il faut quand même en parler. Quand je me suis dit, je veux faire du théâtre, j'étais là. En fait, je suis une zouze. Et en fait, je ressens pas aux meufs qui passent à la télé.
Carrément.
Oui. J'avais pas conscience. Tu vois, de ce qui n'allait pas, de ce qui clochait dans ma conception de moi-même. Je savais pas ce qui bloquait vraiment. Je savais que j'avais pas les codes physiques des gens qui passaient à la télé.
En tout cas, tu te disais, j'ai pas l'impression d'avoir ma place là-dedans.
Ouais.
Sans forcément avoir conscientisé. C'est parce que je suis une femme racisée qui ne vient pas de tel milieu. Mais en tout cas, tu sentais que...
Je sentais que j'avais pas ma place. Et donc, j'étais là. J'ai fait les portes ouvertes.
Y a pas de gens qui te ressemblent qui font ça, quoi.
Exactement. J'ai fait les portes ouvertes de plusieurs écoles de théâtre où je voyais aucune femme qui me ressemblait. En fait, tout le monde était blanc.
C'est marrant.
Vraiment, tout le monde était blanc. Et du coup, j'étais là. Well, j'ai pas ma place ici. Mm-hmm. Du coup, j'ai fait une école de trad. Puis après, j'ai fait une école de journalisme. Ensuite, je suis rentrée au L.fr où j'ai écrit. Ensuite, j'ai écrit pour des blogs, genre depuis moi, mac.fr, qui est le site de Jardiland.
J'adore cette anecdote.
J'ai écrit pour Cosette. Enfin, j'ai fait plein de choses avant d'arriver chez Mademoiselle, où j'ai rencontré.
Hey yo!
Et j'ai passé 5 ans de ma vie à écrire et où j'ai eu la chance d'avoir des patrons qui m'ont laissé l'opportunité d'écrire sur un peu ce que j'avais envie, qui m'ont fait participer à des podcasts, qui m'ont fait faire des vidéos, etc., où j'ai pu vraiment développer ma créativité et écrire au-delà de juste écrire pour des articles. En fait, je pouvais faire un petit peu ce que je voulais. J'écris des témoignages. Bon, c'était vraiment hyper enrichissant.
Dis-moi si je me trompe. Je sais qu'à un moment, il y avait Fab, qui est le fondateur, ancien rédac chef... et PDG de Mademoiselle, je sais qu'il a longtemps eu et qu'il m'a longtemps amené une velléité de j'aimerais bien que des gens puissent publier des nouvelles de fiction sur Mademoiselle.
Je me rappelle.
Et qu'on ait un peu un rôle de curation, de publication et tout, et de les faire lire au monde parce qu'il y a plein de meufs cool qui écrivent des trucs. Et moi, étant, j'étais rédac chef adjointe, je crois, à l'époque, puis rédac chef, il était un peu en mode qu'est-ce que t'en penses? Et je lui disais, en fait, moi, j'ai un problème fondamental qui est que je ne suis pas en capacité de juger quel texte mérite d'être publié ou pas. J'ai aucune envie de publier un texte qui va être considéré globalement comme mal écrit et qui va peut-être se prendre du coup une volée de bois vert d'électrice. Je suis trop difficile en littérature pour avoir ce rôle de juger si un truc est publiable ou pas sur Mademoiselle. Et du coup, j'avais dit, trouve quelqu'un pour t'en occuper, moi je veux pas le faire. Et je sais que ça avait fini par se faire. Est-ce que t'avais été impliquée sur ce truc de publier de la fiction sur Mad ou pas du tout?
Alors, non, au départ,
je crois qu'on en avait parlé de peut-être Kalindi, comme elle a cette fibre, ça l'intéresserait.
Non, j'ai pas fait ça. En revanche, quand on a créé les ateliers d'écriture, l'idée c'était que, à chaque fois, on élisait le texte qu'on trouvait le plus. Le plus pertinent par rapport au thème qu'on donnait. Ça veut pas dire que c'était il y avait pas de jugement.
Oui, ça veut pas dire les autres sont pas bien.
Ça veut pas dire les autres sont pas bien, c'est juste on avait élu la nana qui avait écrit d'après nous le texte le plus en phase avec la thématique et donc on le publiait sur Mademoiselle. Et donc là, il y avait ce truc de publication à chaque fois d'un texte une fois par mois quoi. mais c'est le seul truc dans lequel j'ai été impliquée.
D'accord. Et comment t'es venue chez Mademoiselle? En fait, t'écrivais beaucoup de choses, mais quand même pas vraiment de la fiction. C'était pas l'idée. Et pourtant, t'as déjà fini un roman. Et je crois que c'est pas le seul truc de fiction que t'as fini, mais en tout cas, c'est ce que t'appelles toi ton premier roman. Comment t'en es venue à te dire, je vais écrire un roman et écrire de la fiction et avoir la certitude que c'est assez intéressant pour que je l'écrive, que j'en parle aux gens, que je le propose à des maisons d'édition, tout ça? Tout ce parcours vers ce qu'il y a dans ma tête est intéressant pour quelqu'un d'autre?
Alors, j'avais déjà écrit un ersatz de roman avant d'arriver chez Mademoiselle, qui était un truc fondamentalement mauvais. Et petit plot twist, il y a 2 ans, j'ai été cambriolée chez moi, dans mon appart du 18e arrondissement, et on m'a volé mon ancien ordinateur.
L'occasion de faire un petit point sécurité. Ne laissez pas la clé de chez vous sous le paillasson pour qu'elle... Non mais c'est vrai, parce qu'en vrai je le faisais avant toi. Non, dans la boîte aux lettres. C'était ça le bas. Non,
la première fois
ni sous le paillasson ni dans la boîte aux lettres. Ne laissez pas la clé sous le paillasson, même pour genre une journée, quelqu'un la récupère le soir, parce que il y a quand même un risque. Et même dans votre boîte aux lettres, en mode tu me laisses la clé dans la boîte aux lettres, je la récupère, il y a des gens qui peuvent mettre un petit fil de fer dans la boîte aux lettres et récupérer la clé, notamment nous arrivons à l'été où il y a pas mal d'apparts qui vont être vides. Faites attention à vous.
Ouais, faites vraiment gaffe. Je me suis fait cambrioler 2 fois en 4 mois. Alors, pas de chance pour les premiers cambrioleurs. Ils sont tombés sur mon ordinateur, comprenant mon premier roman. Si vous nous regardez, je suis désolée pour vous.
Ce sur quoi vous allez... Attends, imagine, ils le vendent et c'est un best-seller. Genre, ils le publient.
En soi, ça, c'est l'idée d'un roman, déjà.
Mais grave, et toi, tu le lis et t'es là...
Mais c'est mon roman de merde.
Et tu le vois sur Netflix, adaptation avec Audrey Fleurot et tout. T'es là, mais attendez, mais c'est mon roman pas bien. Pourquoi il est sur Netflix?
Incroyable. Donc, on m'a volé mon premier roman de manière assez indirecte. Et c'est tant mieux. Je suis ravie que des gens puissent potentiellement le voir. Oui.
Tu veux dire que tu n'avais pas de backup? Tu ne l'avais pas sur le cloud?
Non, mais alors ça, c'est...
T'avais un document Word comme ma daronne. Et si tu le perds,
c'est
tu
ça.
N'as pas de...
Alors depuis, j'écris sur Google Doc, hein, vraiment.
Oui. Une connerie que tu fais une fois, pas deux. RIP ton premier roman. En vrai, je suis un peu triste qu'il soit introuvable.
Ah non, c'est vraiment à chier. Mais bon, en tout cas, ça a été le chemin pour me dire que... en tout cas, j'étais capable d'écrire une histoire. Pas forcément de A à Z, parce que ce roman, je l'avais pas fini. Mais en tout cas, il s'est passé quelque chose d'assez formidable pour moi, qui a été assez déprimant pour une grosse partie de l'humanité. C'est le Covid. Pendant le Covid, j'ai lu donc le livre dont je vous parlais tout à l'heure, Libérez votre créativité, de Julia Cameron.
Tout à fait.
J'ai fait la méthode en 12 semaines et j'en suis sortie en me disant « Ok, il est temps ». Entre-temps, mon père meurt d'un cancer et je me dis « J'ai une histoire à raconter sur mon père particulièrement et j'ai envie de raconter le trip en bus que je ne ferai jamais avec ses amis et mes amis jusque dans les Pyrénées pour aller gravir la montagne qu'il gravissait à vélo. »
Et car donc, c'est père était, mon père était cycliste. Très cycliste.
Et donc, c'est le point de départ de mon roman. Et en fait, j'ai commencé à l'écrire parce que c'était une putain de nécessité. Je crois que c'est Amélie Nothomb, alors on en pense qu'on veut, mais moi c'est une femme que j'aime beaucoup pour sa philosophie, pour son rapport à l'écriture, qui dit « écrire c'est une question de vie ou de mort ». Et pour moi ça a été vraiment une question de vie, tout simplement, l'écriture de mon roman.
Il fallait
que ça sorte. J'ai eu besoin d'écrire cette histoire qui, en fin de compte, est assez... La plupart de cette histoire est fictionnée. Je pars d'un point de départ qui est vraiment arrivé, donc la mort de mon père, son incinération. Et après, je vais raconter tout ce qui s'est passé dans un road trip imaginaire. Et en fait, ce roman a été le truc le plus salvateur de ma putain de vie. C'est-à-dire que je pensais jamais déjà que je serais capable d'écrire quelque chose en entier. Je pensais que j'abandonnerais très rapidement. Je pensais que j'étais pas assez rigoureuse. Il s'est avéré que...
Tu pensais qu'au moment où ça devient du travail il faut se discipliner, tu serais là, bon, ça arrête. Et je dis ça avec aucun jugement parce que je suis pareil. Il y a plein de trucs où, genre, tant que c'est... On a la chance d'avoir parfois des facilités sur, par exemple, l'écriture. Il y a un aspect où, oui, il y a des aspects qui sont faciles. Mais du coup, un truc qui est censé être facile quand ça devient difficile et qu'il faut un peu travailler, en fait, on peut avoir plus facilement tendance à arrêter et à se dire « Non, mais j'ai une autre idée d'un autre truc à écrire, qu'on va encore écrire à 30% parce qu'on va faire la partie facile. » Et après, on sera là « Bon, on va écrire autre chose et pas aller au bout. » Donc, bravo.
C'est ça. Et en fait, le truc, c'est que pourquoi je suis allée au bout, c'est parce que c'était... Alors, on dit souvent que l'écriture, c'est vraiment le truc le plus pénible, que c'est une traversée du désert. Ça a été le truc passionnant qui m'est arrivé. C'est la plus grande aventure de ma vie. C'est d'écrire ce roman. Et ce roman, quand je l'ai eu fini, quand j'ai écrit fin, et que déjà, j'ai pas vu passer le temps, je l'ai écrit en un an. Alors, pas un an tout le temps, j'ai écrit vraiment des morceaux. Ma mère, entre-temps, a détesté. On a vendu un billet supplémentaire, merci beaucoup.
Merci beaucoup à la
plus
personne.
Plus que 5 places.
À acheter. Et oui, c'est fou.
J'étais là, j'avais pas calculé.
Merci beaucoup. Merci à vous, vraiment, ça me touche énormément. Ma mère a détesté une partie de ce roman, ça m'a bloqué pendant 4 mois, j'ai pas pu écrire. Enfin, oui. Bref.
Et non seulement elle l'a détesté, mais si je peux me permettre, elle te l'a dit de façon un petit peu abrupte.
Elle a été violente.
Ce qui est déjà pour une autrice en général compliqué, pour une jeune autrice qui a écrit en tout cas son premier roman. Qui est en plus hyper intime et tout. Et puis c'est ta mère, elle devrait savoir qu'il faut un peu mettre les formes et que tu peux pas juste...
C'est-à-dire que je suis une personne susceptible, un peu, ouais.
Tu es une artiste, en fait. Mais moi aussi. Donc oui, évidemment, on a un ego gros comme ça. J'ai une chaîne Twitch, genre, je me lève le lundi matin et je suis là, qu'est-ce que les gens ont envie de faire aujourd'hui ? Probablement m'écouter parler. C'est quand même un del. Donc oui, évidemment,
moi,
j'ai de l'ego.
J'aime toujours t'écouter.
Mais merci, bah, j'adore te lire et t'écouter.
Oh là là.
Donc, ta mère n'aime pas une partie de ton roman, ouais. Et ça te bloque.
Et donc, ça me bloque, machin. Mais je finis l'écriture de ce roman tout simplement parce que c'est la plus grande thérapie de mon existence. Et quand j'ai eu fini, quand j'ai mis un point final à ce roman, j'ai eu 2 mois de grosse déprime. Parce que j'avais quitté mes personnages, qui pour la plupart existaient, mais certains que j'avais inventés. Je me suis tellement attachée à mes personnages, tellement attachée à mon histoire, tellement attachée à mon héroïne, qui était une extension de moi-même, mais avec encore plus de défauts. Est-ce que c'est possible ? Mais je me suis attachée vraiment aux défauts de mon héroïne et à tout ce qu'elle avait d'imparfait et de contradictoire. Et ça a été vraiment éprouvant de mettre un point final à ce roman. Alors, quelqu'un me dit par pitié, autopublie-toi. J'espère que ce roman sera publié avant, oui. Parce que, petite news sur ma vie, je viens de signer avec l'agent de Marc Lévy.
Oh my god ! Donc la vanne par ici pour marcher sur les plates-bandes de Marc Lévy qui est épinglé dans le chat n'est pas qu'une vanne, hein, littéralement.
Ouais, franchement, je suis super fière. Depuis une semaine, pile poil aujourd'hui, j'ai la même agente que Marc Lévy. J'ai une agente internationale
bang, bang.
Qui va s'occuper de vendre ce putain de bouquin, j'espère. Bien sûr, vas-y. À l'international. Enfin, en tout cas, on espère que ça va marcher. J'espère que vous pourrez lire ce roman. Non pas par velléité égocentrique. Alors, il y a une partie de ça, je vais pas mentir. Écrire, c'est quand même se regarder un peu le nombril. Mais tout simplement parce que c'est la chose la plus incroyable qui m'est arrivée et j'ai vraiment envie de le partager. C'est cette aventure imaginaire. Donc voilà, depuis j'écris un autre roman, depuis j'écris des scénarios avec Alix Martineau, quelqu'un en parlait tout à l'heure, merci beaucoup pour vos bravos.
Ah, Alix Martineau, qui est venue sur cette chaîne notamment parler de Succession, et elle était ravie de venir parler de Succession.
Des femmes.
Et moi j'étais ravie de l'avoir, bien sûr elle est dans 4 quarts d'heure avec toi toutes les semaines,
évidemment.
Pour celles et ceux à qui Alix Martineau manque, ce que je comprends,
moi,
elle est là.
Plus que tout, oui. Et c'est quelqu'un avec qui je me suis lancée, enfin honnêtement... Donc mon bouquin je l'écris toute seule, mais il y a une autre aventure qui m'arrive en effet, c'est l'écriture de scénario que j'ai entamé il y a un peu plus de 2 ans aujourd'hui avec Alix, un petit peu par des biais hasardeux, et on a fini par se dire qu'on avait envie de fabriquer du cinéma nous-mêmes, parce que pendant des années Mimi elle m'a laissé l'opportunité de parler de cinéma et de séries sur Mademoiselle, et j'ai eu envie de passer de l'autre côté du miroir et de fabriquer moi-même. Et fabriquer, ça commence par un truc très basique qui est vraiment écrire, c'est-à-dire que ce que vous voyez évidemment sur vos séries Netflix etc, bah ça commence par exister dans sous la forme d'un dossier écrit.
Et je suis vraiment dans la team de, je trouve ça pas juste qu'on connaisse beaucoup moins les scénaristes que les réalisateurs et réalisatrices, parce que évidemment qu'il y a de l'image, c'est du cinéma, mais en vrai, moi je suis dans la team, un film moche avec une bonne histoire sera toujours mieux à mes yeux qu'un très beau film avec une histoire nulle, tu vois.
Exactement.
Avatar, bof, par exemple.
C'est pas on est bien d'accord.
Alors qu'une très bonne histoire avec une réelle bof, moi je signe, parce que juste c'est ça qui marche, c'est l'histoire, c'est les gens.
Exactement, et c'est terrible parce qu'en effet, les scénaristes sont hyper invisibilisés, ce qui a conduit à
encore plus en France qu'aux États-Unis,
surtout,
je crois,
ouais.
Ou que dans le milieu anglo-saxon où il y a toujours ce truc de réalisateur roi. Quoi.
Oui, on n'a pas les mêmes syndicats, on n'a pas la même visibilité, et même aux États-Unis, il y a des grèves régulièrement des scénaristes. Oui.
My Wendy soutient la grève des scénaristes qui est toujours en cours.
Toujours.
Il y a une grosse grève des scénaristes. Il me semble que actuellement, l'une des préoccupations, c'est à la fois le fait que les scénaristes touchent très peu de droits sur la diffusion en streaming, ce qui est quand même à l'ère du streaming. Un petit peu abusé d'être payé principalement sur, par exemple, les sorties en salle, alors qu'on sait que les films, ils vont être dispo. En plus, aux États-Unis, ils ont pas la chronologie des médias comme nous, qui fait que t'as au moins 6 mois ou 1 an avant que le truc soit dispo en SVOD. Donc en fait, il y a des films, ils sortent, ils sont dispo 3 semaines après. Donc les gens, ils les regardent en SVOD, en streaming, mais les scénaristes, du coup, touchent moins d'argent. Et aussi la menace de ChatGPT et autres outils d'IA qui écrivent des scénarios, qui va menacer leur travail pour une partie d'entre eux et elles. Donc voilà, soutien à la grève des scénaristes,
ouais,
évidemment.
De fou. Et alors en France, c'est encore pire, c'est-à-dire que vraiment les scénaristes, on ne les connaît pas. Enfin, je pense que vraiment, si on vous demande c'est qui les scénaristes qui vous marquent, dont vous consommez les contenus à la télé, sur les plateformes de streaming ou au cinéma, vous êtes capable d'en citer assez peu en réalité.
Je peux pas citer de scénaristes français ou françaises,
bah, si
je
tu
pense.
Peux citer ne serait-ce que Fanny Herrero, par exemple.
Ah oui. De 10%, oui, bien sûr.
De 10%, de drôle, etc.
Mais, en fait, dans ma tête, elle était aussi réelle, tu vois. J'ai l'impression que je peux signer des... Mais peut-être pas.
Elle
peut-être
est showrunneuse.
Ok. J'ai l'impression que, voilà, il y a des réalisateurs, scénaristes, mais un peu comme auteurs, compositeurs, interprètes, mais des gens qui font juste scénario. J'ai l'impression qu'en France, j'en connais pas, quoi.
Ouais,
alors que, vive les histoires. C'est
exactement
la meilleure chose.
Exactement. Donc non, là j'écris des histoires avec Alix Martineau, on a signé en production deux des grosses séries qu'on écrit, on signe demain normalement un court-métrage un peu professionnel qui s'appelle Coucou point d'exclamation, qui est un court-métrage de genre sur la colonisation, voilà, pas mal de
trop
choses
bien
qui arrivent et dont j'espère que vous pourrez les voir, alors pas rapidement, car le saviez-vous,
la prod.
Tout dure des années, et c'est ça aussi, c'est un vrai écueil de l'écriture, c'est qu'on a envie que aussi par ego que tout ce qu'on écrit ça existe rapidement, que les gens puissent le lire, puissent le consommer visuellement.
Oui, quand t'as fini, t'as eu l'urgence de c'est fini, il faut le donner aux gens.
Exactement.
Et aussi fait, on a l'habitude, enfin toi via ton métier et moi via l'intégralité de ma vie, de publier sur internet où c'est instantané et où aussi le retour est instantané.
C'est ça.
Publier un livre, genre tu rends un manuscrit, bah, il sort entre 6 mois et 1 an plus tard minimum, et les retours des lecteurs et des lectrices, si t'as la chance de faire des dédicaces et tout, t'en as quelques-uns en direct, les gens peuvent bien sûr te joindre sur les réseaux, mais en fait il y a plein de gens qui vont lire ton livre et qui t'en parleront jamais, tu sauras jamais ce qu'ils en ont pensé, ce qui
exactement
est fou quand t'as l'habitude du retour. Enfin tu vois, moi je finis par faire
instantané
des live Twitch où on fait pas
internet
plus instantané que ça en termes de réaction des gens. C'est compliqué de s'adapter à une autre temporalité, je trouve.
Ah oui, c'est clair. Et d'être toujours dans ce temps latent, d'être dans l'attente en permanence, d'être validé par un milliard d'intermédiaires, c'est-à-dire des producteurs, des diffuseurs, des agents, encore d'autres gens qui viennent s'ajouter dans cette liste-là qui paraît déjà longue, mais en fait, il y a encore plein d'intermédiaires entre les producteurs, les agents, les producteurs, etc. C'est vraiment très compliqué. Ça met à rude épreuve, en tout cas, mon sens de l'impatience. C'est très compliqué parce que ce qu'on écrit, c'est aussi... Moi, j'écris des choses qui me passionnent fondamentalement. C'est vraiment ma passion. Et c'est très triste. C'est en permanence une remise en question de se dire, bah putain, là, faut réécrire. Faut encore attendre un an et demi. Faut re-signer. Faut repostuler à des concours. Enfin, tout est absolument long. C'est pour ça que, pour en revenir aux ateliers d'écriture,
oui,
je pense que c'est chouette d'avoir en très peu de temps, c'est-à-dire en 4 semaines, un projet qui soit un peu fini, donc vous êtes un peu
oui,
fiers,
carrément,
quoi. Tu vois, il y a un truc, c'est pas instantané, c'est pas du tu l'écris, ça existe, machin. Mais en tout cas, en 4 semaines, vous avez quelque chose qui va exister, au moins, en tout cas... du point de vue des personnes qui auront partagé l'expérience des ateliers, de moi, enfin c'est vraiment quelque chose qui vite va être gratifiant dans le temps, quoi. Voilà. Qu'est-ce que
bon,
et toi,
Mimi,
puisqu'on parle que de moi là, mais toi,
ouais,
comment tu t'es mise à l'écriture?
C'est marrant parce que moi, dans ma tête, j'ai pas l'impression de m'y être mise. Tu vois, genre je me suis pas dit un jour je vais écrire des trucs. Et j'ai toujours eu ce truc en plus de. Je pense que donc moi j'étais comme toi, grosse lectrice assez jeune. Moi, j'étais pas enfant unique, j'ai 2 sœurs que j'aime beaucoup, mais j'étais très timide et très introvertie, et aussi j'avais des parents qui, pour le coup, enfin j'ai toujours des parents, qui valorisent beaucoup la culture, l'intellectuel et tout, et qui avaient à cœur de... bah pareil, j'ai appris à lire un peu, je crois que j'ai appris à lire avant d'entrer en CP parce que j'étais jalouse de ma grande sœur qui savait lire, et comme j'étais en plus timide et introvertie, je suis très vite rentrée dans les livres, et je pense que comme j'ai toujours un peu du mal à comprendre des fois le monde et les gens, bah en fait la littérature c'est un super moyen de rentrer dans la tête des gens, tu vois, et d'avoir plein de visions du monde, et ça t'explique un petit peu comment marche, je trouve, le monde. Donc moi je pense que mon attrait à la base c'était lectrice, tu vois, je me suis jamais gamine je me disais je vais écrire un bouquin. Mais je pensais de ouf, j'allais écrire un best-seller, tu vois. Je me souviens quand j'étais petite, on regardait Ruquier avec mes parents, la première émission de Ruquier dont je me souviens qui était, on a tout essayé, à l'époque, qui passait en début de soirée, enfin genre 18-19h. Et où il y avait tout le temps des invités qui venaient faire leur promo. Et mes parents, ils aimaient trop, notamment ma mère, elle aimait trop Ruquier et tout. Et j'avais en tête, un jour, genre j'étais sûre que j'écrirais un bouquin hyper jeune, tu vois, genre je serais romancière à 16 ans et que je serais invitée chez Ruquier parce que j'ai fait un best-seller à 16 ans. Tu vois, j'avais cette ambition de let's go. Sauf que j'ai eu 16 ans et 17 ans et 18 ans et j'ai commencé à faire ma vie et du coup l'aspect jeune prodige ne marchait plus. Donc j'aurais pu juste être un prodige, mais pour ça il aurait fallu peut-être écrire un livre, ce que je n'ai pas fait. Enfin, ce que j'ai fini par faire, mais pas de la façon dont j'imaginais quand j'avais 14 ans devant Ruquier. Mais j'écrivais des bouts de trucs. Alors j'ai eu des petites velléités littéraires d'écrire des nouvelles et tout quand j'étais ado. Mais en fait c'était, je pense, beaucoup... J'arrivais pas à me sortir de... Enfin, avec mon recul d'aujourd'hui, je dirais que c'était clairement du plagiat ou en tout cas de la ressucée de trucs. En gros, je lisais beaucoup, mais j'arrivais pas à transformer ça en inspiration. C'était plus genre je vais piocher des trucs dans ce que j'aime bien, mais vraiment en copier-coller, tu vois. C'était pas ça va créer un mélange de trucs dont je pourrais sortir ma propre version. C'était vraiment il y a un peu de Harry Potter, il y a un peu de machin, il y a un peu de trucs, mais ça fait un truc un peu Frankenstein à la fin. Et surtout, j'avais pas d'idées d'histoire, finalement, tu vois, genre j'arrivais à lancer un début, j'arrivais à créer des, enfin à créer des personnages comme une enfant de 12 ans qui a un Google, un document Word, donc c'était pas, voilà, mais j'avais zéro idée de où allait l'histoire, donc c'est quand même un problème quand on veut faire de la fiction, je trouve. Et j'ai jamais réfléchi, tu vois, j'ai jamais emprunté à la bibliothèque des bouquins sur comment écrire ou quoi. Pour moi, c'était pas un métier, c'était pas une possibilité dans ma vie, à part ce vague fantasme de, oui, un jour j'écrirai un livre à 16 ans et ce sera un best-seller, pas du tout. Et après, par contre, j'ai écrit beaucoup sur Internet parce que moi, j'ai eu Internet tôt. Donc, moi, je suis née en 91 et je pense que, à 10-11 ans, je voulais déjà aller au. Mais c'était pas. Enfin, tu vois, il n'y avait pas les réseaux sociaux et tout. Par contre, à l'adolescence, j'ai eu MSN, qui était du coup un vrai outil de discussion qui m'a permis à moi, très timide. En fait, il y a beaucoup des relations sociales que j'ai eues qui étaient sur MSN, qui au final étaient de l'écrit, tu vois. Il n'y avait pas du tout la visio et tout à l'époque. Et puis après, il y a eu les blogs, et j'avais des blogs où j'écrivais des trucs, mais il n'y avait jamais de velléité de fiction là-dedans. Par contre, j'ai eu un skyblog de poèmes. Voilà,
oh là là, mais qu'est-ce qu'on apprend ce soir ?
De poèmes à base d'anges déchus sur des tombes, tu vois. J'écoutais un peu du métal symphonique. Ma grande sœur, elle écoutait Nightwish. Ouais, Constantine est fou, évidemment. J'adore Constantine avec Kim Reeves. Et bon, skyblog ferme. Je n'ai plus l'URL de mon skyblog anyway de poèmes. En vrai, si je pouvais le retrouver, je ferais un live dessus. Genre, j'ai pas honte, tu vois. J'avais 13 ans, j'étais cringe, c'est normal. Mais voilà, il y avait un peu de ça. Mais bon, c'était plus une façon de dire mes émotions et de faire des subtweets à l'intégralité des gars que j'aimais bien, tu vois, que de me dire j'écris pour écrire, tu vois. Mais en même temps, j'écrivais tout le temps, donc voilà. Et après, donc j'ai continué, j'avais mes blogs et tout, mais où je faisais genre des critiques ciné ou alors je racontais un peu ma vie. Et des fois, je faisais des trucs qui étaient pas de la fiction, mais plus de l'écriture automatique, tu vois, une forme quand même d'écriture assez émotionnelle. C'était pas voici mon avis sur un truc, c'était voici ce qui se passe dans mon cœur et dans ma tête. Et après, bah, quand même, au lycée, j'aimais bien tout ce qui était écriture d'invention, tu vois. Quand en français ou en littérature, il y avait écriture d'invention, je prenais toujours ça. Quand au bac ciné, il y avait écriture d'invention de scénario, j'ai pris ça. Et du coup, c'était toujours un format nouvelle parce que t'as pas le temps d'écrire un gros truc. Et j'aimais bien le format nouvelle avec un twist. Genre, je me souviens que mon scénar du bac de lycée où j'ai eu 19 en cinéma.
Wow.
Il y avait plusieurs épreuves. Il y avait une analyse de scène de film. Que j'ai faite à l'oral, du coup c'était l'oral. Il y avait un truc écrit sur je sais plus quelle période, on avait plusieurs périodes où réalisateur qui était au programme, et il y avait écriture d'invention si tu voulais, ou commentaire de texte, et j'ai pris écriture d'invention, et c'était un court-métrage où c'était un truc hyper capsule hôtel japonais futuriste, parce que dans mon cursus il y avait Wong Kar-wai, qui est un réalisateur hongkongais incroyable, In the Mood for Love et tout, et il a un film qui s'appelle 2046 qui est du coup futuriste, où il y a je crois que c'est un train, enfin il y avait des genres de tubes avec des néons qui m'avait grave inspiré, et donc c'était un couple qui faisait l'amour dans un genre de capsule hôtel d'où tu comprenais que c'était un peu SF, et le twist de fin c'était qu'ils avaient chacun un genre de port USB dans la nuque, et en fait c'est des androïdes, tu vois. Mais il y avait pas vraiment d'histoire autour de ça, c'était juste genre ah ah, et à la fin c'est des androïdes, mais c'est genre OK, peut-être pour un court-métrage ça marche, mais ça raconte rien fondamentalement, enfin ça, il y a pas d'histoire autour de ça, quoi. Donc il y avait quand même ce truc d'invention, et après j'ai fait des études de communication, et après j'ai pas du tout fait d'études ni de journalisme ni d'écriture ni rien. Et quand j'étais, en fait, j'ai pris cinéma à la base parce que je pensais que je voulais être réal, et je me suis rendu compte que l'image c'est pas mon truc, et du coup après je voulais être scénariste, et je me suis rendu compte que j'avais pas d'idée d'histoire à raconter, toujours c'est un problème, et du coup je me suis dit je voudrais être critique ciné, je voudrais être journaliste ciné. Et mon daron, que j'aime très fort, a fait un truc qui était un move de daron incroyable, mais qui je pense m'a ken au final parce que c'était pas qui je suis, qui m'a dit « Écoute ma fille, t'es trop jeune pour te contenter de parler des films des autres. Je pense que tu devrais envisager de faire tes propres films, et du coup pas dire je vais être journaliste ciné, mais dire peut-être je vais faire du ciné. »
En vrai, incroyable move d'encouragement de daron. Genre.
Mais du coup, je me suis dit, ok, je vais pas être journaliste ciné. Alors qu'au final, je pense que j'aurais bien aimé être journaliste ciné. Donc peut-être s'il m'avait pas dit ça, j'aurais fait journalisme, quoi. Au final, j'y suis retombée et j'ai pu aller à des projets presse, faire des critiques de films et tout. Donc on s'en est bien sorti. Et j'ai jamais eu la velléité de d'écrire mon propre scénario. Donc ça, ça va. Mais du coup, je suis arrivée chez Mademoiselle à la base pas pour écrire, pour corriger les gens, parce que j'étais secrétaire de rédaction. Et j'avais vraiment ce truc de, alors que je continue à écrire, je continue à avoir des blogs que personne lisait, mais moi j'étais contente. Et je continue à avoir ce truc de, en fait, j'ai envie d'écrire, tu vois, même si personne me lit, j'ai envie d'écrire. Mais je sais que chez Mademoiselle, quand je suis arrivée, on était une toute petite équipe et tout, et du coup assez vite j'avais plus assez d'articles à corriger, donc j'avais un peu rien à faire. Et Fab m'a dit bah t'as qu'à écrire des trucs. Et j'étais en mode bonne vanne, genre bah c'est le métier d'autres gens, tu vois, c'est genre les gens qui travaillent chez Mademoiselle, ils écrivent des trucs, mais moi je corrige, j'écris pas. Et t'es là, non mais on t'a pris aussi parce que tu sais écrire, donc n'hésite pas à écrire. Et j'étais vraiment en mode, il y a quelqu'un qui me dit que ce que j'écris mérite d'être publié, c'est incroyable. Donc c'est comme ça que je me suis mise à être à l'aise avec l'écriture, c'est en écrivant sur Mad, mais du coup pas de la fiction. Et j'avais toujours ce truc de, en fait j'ai pas de roman à faire ou j'ai pas de fiction à faire parce que j'ai pas d'histoire en tête. Et là c'est l'an dernier que via un tumulte émotionnel, en fait je me suis mise à écrire un truc juste pour sortir, parce que pour le coup j'ai toujours eu l'écriture pour sortir ce que je ressens et tout. Donc je me suis mise à écrire un truc, sauf que ce coup-ci ça ressemblait un peu plus à de la fiction, et je me suis dit est-ce que c'est pas le début de quelque chose? Donc peut-être un jour un roman, mais vraiment retenez pas votre souffle, parce que encore une fois on en est à 29 pages et ça avance pas tous les soirs, hein. Clairement ça fait un petit... Je l'ai rouvert hier ou avant-hier, je sais plus. J'ai changé deux mots et ajouté une virgule et j'étais là, ah on a bien travaillé, c'est voilà. On a... Bah, en même temps il était 2h du matin, c'était l'heure d'aller se coucher, hein. On a quand même une vie. Voilà, mais pour moi l'écriture c'est mon moyen d'expression préféré, tu vois. Même si là je fais des lives et tout... Quand l'internet est devenu full vidéo, je n'y suis pas venue parce que c'est pas mon truc.
J'aime un peu quand même.
J'ai fait, mais parce qu'il faut faire, tu vois. Et en fait, je préfère lire et écrire. Et je trouve que ça permet de poser sa pensée, de faire passer plein d'intentions, et puis que ça te montre des facettes des gens, de lire comment ils écrivent. Donc ça, c'est cool, quoi.
C'est clair.
Oui. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver sur les internets et ailleurs?
Vous pouvez me retrouver sur Instagram, évidemment, @kalramphul, K-A-L-R-A-M-P-H-U-L. Mm-hmm. Vous pouvez aussi m'écouter toutes les semaines dans Le Seul Avis qui Compte, mon podcast cinéma produit par mademoiselle.com qui sort tous les vendredis. Vous pouvez m'écouter dans 4 quarts d'heure, une émission que je co-anime avec Alix Martineau, Camille Laurent et Louise Petrouchka qui sort tous les mardis sur toutes vos plateformes préférées de podcast. N'hésitez pas à souscrire au 5e quart d'heure. À Cast Plus. Vous pouvez aussi m'écouter dans Nimp, mon podcast ma chronique de mauvaise humeur hebdo.
J'ai cru que t'allais dire mon podcast macroniste. J'étais là, pas vraiment.
Ma chronique de mauvaise humeur hebdo qui sort normalement tous les mardis, mais parfois ça sort à d'autres dates. Et là, je vais faire une pause pour tout l'été. Et puis, j'espère que vous pourrez rapidement lire mon bouquin et regarder mes séries. Oui. Pour l'instant, c'est tout.
Bientôt Kalindi en librairie, bientôt Kalindi sur Netflix ou Prime ou Apple TV ou autre. Merci d'avoir été là. Merci du soutien, du love. Abonnez-vous au podcast de Kalindi et à bientôt.
À bientôt.
Bye.
Salut.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préférée. Si vous voulez encore plus de Mimi dans vos oreilles, vous pouvez retrouver mes débriefs de séries sur le flux Mimi Hegel débrief les séries, tout simplement. M'écouter avec la créatrice de contenu Marie Kigaï chaque mardi dans le podcast BFF et me retrouver tous les dimanches en compagnie de Fabrice Florent dans notre podcast cinéma Le Film Club. Tous les liens sont dans la description. Merci à Valentin Nortier pour le générique et à Pop Music Production pour le montage. Et très belle journée !